Columne, réalisé par Bertrand Lavier.
Alors devant moi, j'ai une colonne, comme dans un temple grec, sur laquelle vient se poser un bidon bleu. La colonne a des raies blanches, verticales, et le bidon, lui, dessus, il est bleu, avec des lignes horizontales. Le tout fait à peu près 2 mètres de haut. Alors, est-ce que tu reconnais l'œuvre ?
Ah, je la reconnais tout à fait, oui. C'est une œuvre, en fait, qui est née lors d'une invitation à une exposition dans un musée à Autun.
Ouais.
Où là, il y avait de vraies colonnes en pierre, ouais, qui étaient en plein air. Et donc, en fait, le principe de l'exposition à l'époque, c'était d'intervenir sur, on dira, la collection de ce musée. Et donc, moi, ça, j'étais tout de suite intéressé par ces colonnes. Et comme c'est sur un de mes chantiers, consiste à mettre une chose sur une autre, hein, pour faire une chose, pour parler simplement, pour, ouais, que ça en devienne une troisième,
ouais,
en l'occurrence une sculpture. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait dialoguer avec ces colonnes tronquées du 4e siècle. Et donc, visuellement, la correspondance du 20e siècle, c'était ces tonneaux, ces barils de pétrole,
ouais,
hein, qui sont d'ailleurs assez symboliques aussi de l'époque dans laquelle on était. Là, on l'est moins maintenant. Hein.
C'est heureusement un peu différent.
C'est moins référent qu'avant, ouais, le baril de pétrole. Et donc, très simplement, mon travail a consisté à trouver une colonne qui ait le même diamètre que ces barils de pétrole. Et donc, ça a été l'œuvre originale.
Oui.
Et puis après, en fait, j'en ai fait une sorte d'édition en moulant un fût de colonne pour pouvoir faire cette édition de colonne où il y en a 9 exemplaires. Là, vous parlez d'une bleue.
Oui.
Et elle est déclinée en plusieurs couleurs. Donc, il y a un fût jaune, un fût rouge, un fût vert, etc.
Et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un comme moi qui passe avec cet assemblage de deux choses ? Qu'est-ce que tu dis de notre monde ? Tu dis quelque chose ? Comment t'es arrivé à créer ça ?
Je pense que c'est presque évident. On a un dialogue, une superposition de deux étapes,
ouais,
de l'histoire.
Ouais.
On est quelque part, même si c'est un moulage, on est quand même quelques siècles en arrière, avec un élément d'architecture, et puis on est dans le 20e siècle, peut-être même encore dans le 21e, mais surtout dans le 20e siècle, qui vient se greffer de manière presque optimale, puisqu'on a une chose qui est presque contradictoire dans les lignes.
Mmh.
Les lignes verticales contredisent les lignes horizontales du fût, et donc il y a une sorte de dialogue et une contradiction, en fait, entre deux mondes, finalement. Ouais.
Et est-ce que tu trouves que cette pièce, que l'on voit au silo,
oui,
elle est emblématique de ton travail ? Est-ce qu'elle...
Alors, c'est compliqué, parce qu'en fait, moi, j'ai ce qu'on appelle des chantiers.
Ouais.
Alors, j'ai des chantiers qui, finalement, peut-être répondent toujours à des questions assez communes, mais qui, visuellement, sont très, très différentes.
D'accord.
Il y a pas très loin de cette colonne, une œuvre de moi qui s'appelle « Bleu ciel », par, je crois, Valentine et Tolins, qui sont deux visions du bleu ciel par deux marques de peinture différentes. Bon, alors, visuellement, c'est très, très... Ça n'a pas grand-chose à voir avec la colonne et le baril de pétrole.
Ce sont deux grands panneaux que j'ai vus, ouais, hein, de couleurs différentes,
ciel, voilà,
un peu plexiglas avec une couleur.
Oui, c'est de la peinture sous plexiglas.
C'est ça, d'accord.
Autrefois, on aurait de la peinture sous verre.
Oui.
Et donc, c'est la peinture de ces deux marques.
Oui.
Et donc, là, on est confronté à un problème qui est sans solution, c'est que toutes ces deux marques ont une vision tout à fait personnelle de ce qu'est le ciel.
Oui.
Et elles ont toutes les deux raisons et toutes les deux torts, puisqu'ils sont différents. Et donc, c'est un problème qui est sans solution. C'est presque un problème métaphysique, je dirais.
Et est-ce que tu es sensible aux matériaux ? Là, on a parlé d'un bidon, hein, métal, une colonne qui peut être en pierre, on parle de plexiglas.
Ouais.
Ça compte, les matériaux pour toi avec lesquels tu travailles ?
Fatalement, c'est indispensable de s'en soucier, puisqu'on est dans... les arts visuels, ouais, ne peuvent pas faire l'économie de savoir quel matériau elles utilisent.
Mm.
Donc, chaque matériau a une certaine charge. Alors, il y a des matériaux qui ont plus de charge que d'autres. Par exemple, quand on utilise de la peinture,
ouais,
et quand on est dans le domaine des arts visuels, la peinture a une charge, elle est plus radioactive que le plexiglas ou le polystyrène.
Tu veux dire qu'elle est plus forte ou plus...
Oui, c'est parce que la peinture a une histoire qui évidemment traverse l'histoire de l'art. Et donc, utiliser de la peinture, ça a plus de conséquences que d'utiliser du plexiglas. Mais le résultat n'a rien à voir avec ces conséquences-là. On peut faire des choses sans intérêt avec de la peinture, ouais, et faire des choses qui ont peut-être un peu plus de pertinence avec, avec du plexiglas.
Et dans ton parcours d'artiste, moi j'ai vu deux œuvres. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu as progressé par petits sauts pour arriver à ces œuvres, et puis d'autres depuis? Ou est-ce que tu as fait des espèces de grands sauts? Comment t'as mûri ton parcours d'artiste?
C'est assez simple. Tu sais, une idée en amène une autre.
Ouais.
Souvent, elle n'est pas bonne, donc il faut attendre qu'une autre... C'est un enchaînement. Vous savez, quand on a... Comment te dire? C'est très injuste, au fond, le truc de l'art. Il y a des artistes, on est un peu comme des chercheurs d'or. Alors, on peut être sur un filon qui fait 20 cm, mais on ne le sait pas. Mmh. Et puis, on peut être sur un filon qui a 15 km. Et là, c'est la chance. Mais le filon qui fait 20 cm peut être extraordinaire, peut être magnifique. Mmh. Sauf qu'il a, voilà, il a une potentialité faible. Il peut pas occuper toute une vie. Et si ça occupe toute une vie, alors on a l'impression, évidemment, à juste titre, que l'artiste se répète, qu'il ennuie. Peut-être même il s'ennuie lui-même, d'ailleurs. Mmh. Mais si on a la chance d'avoir un filon, qui est un peu mon cas, qui peut se prolonger de manière assez inattendue, et que je puisse en profiter, au sens intellectuel du terme, eh bien, je ne m'en prive pas.
Et à ce moment-là, je tire la métaphore du filon, quand est-ce que tu sais que tu as fini un travail? Quand est-ce que tu... Parce que tu pourrais très bien... Là, on a une colonne,
oui,
et un baril. Tu aurais, oui, pu peut-être surposer un deuxième baril. À quel moment tu te dis, c'est complet, c'est fait?
Oh, c'est très simple. Il y a une évidence. Moi, je crois qu'il y a des critères très objectifs de jugement.
Ouais.
On sait... La question, elle est limpide. On sait moins facilement si c'est réussi... Ça, c'est plus compliqué, parce que ça prend du temps. Il y a des choses qu'on pense ratées qui deviennent réussies. Le temps est un élément extrêmement déstabilisateur. Il y a des choses qu'on jugeait peu intéressantes qui le deviennent. C'est plus là que la question est pertinente. Quand c'est fini, on le sait. Non, là, ça, il y a le problème. Si un artiste ne sait pas si c'est fini, là, il faut qu'il arrête.
Et là, tu parlais justement de ce que tu sais, toi, mais est-ce qu'il t'arrive d'entendre des personnes dans une galerie qui parlent de ton travail? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu es sensible à ça? Est-ce que tu le cherches ou tu te dis non, je veux pas?
Quelquefois, on entend... non, en fait, je suis pas du tout sensible à ça. C'est sans fin. Moi, je suis un artiste très clivant. Il y a des gens qui détestent ça, qui pensent que c'est de la fumisterie, que je me fous du monde, et puis il y a des gens qui pensent le contraire. Donc, dès lors que vous êtes très clivant, vous devez être en dehors de ces polémiques, sinon on perd son temps.
C'est invivable.
Même sa spontanéité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et très souvent, d'ailleurs, je pense par exemple à des intellectuels comme Luc Ferry, que tu connais, qui sont des gens qui sont tout à fait réactionnaires par rapport à un certain type d'art contemporain. Mmh. Et alors, moi, je suis souvent une des têtes de turc de ces gens-là, et ça m'amuse. Mais souvent, je leur dis, mais c'est pas tellement contre moi que vous êtes agressifs, c'est contre des gens qui sont tout aussi intelligents que vous, et peut-être même davantage, qui considèrent que ça va être, c'est intéressant. Mmh. Donc, vous voyez, soyez persuadés que vous ne détenez pas la vérité.
La vérité. Écoute, je vais te poser une dernière question qui sort un peu de l'art, qui est de dire, mais si tu voulais associer une musique à ton travail, est-ce que tu aurais une musique en tête qui te viendrait?
Ça serait sûrement du côté du jazz,
ouais,
parce que le jazz est un genre qui peut rejouer, ouais, et improviser. Ça serait de ce côté-là. Alors là, il y en a plein. Ça serait très injuste de dire, voilà... j'aime peut-être le piano, peut-être ça serait du jazz au piano, parce que j'ai appris le piano quand j'étais enfant, et j'ai moi-même peint des pianos, ouais, etc. Il y a une proximité avec cet instrument. Donc voilà.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir.